Merci d'écouter RFI, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 9h à Port-au-Prince, 15h à Paris.
RFI midi.
Dernière partie, nous sommes sur le continent américain pendant une demi-heure. En Haïti, où le conseil présidentiel de transition doit prendre ses fonctions demain. Haïti, où nos envoyés spéciaux ont rencontré un jeune homme contraint de fuir les violences dans la capitale. Il raconte la peur, la fuite, dans un récit rare à écouter dans quelques minutes. On parlera aussi de cette première en Colombie. La justice reconnaît les déplacés climatiques. Et puis, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de cette nouvelle journée rouge en Martinique avec un indice de qualité de l'air très mauvais.
En cause, et entre autres, les particules fines transportées par la brume de sable venue du Sahara. Nous entendrons tout à l'heure le secrétaire général de l'Ordre des médecins de la Martinique.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes.
RFI Midi.
Mais avant cela, on va faire le point sur l'actualité internationale. En Haïti, justement, on l'évoquait à l'instant, où les heures s'égrènent avant l'installation du Conseil présidentiel de transition, Stéphane Genest.
Et ce sera demain à jeudi 10h, local précisément, d'après les sources citées par la presse. Mais il y a un hic, puisqu'une semaine après la nomination officielle de ses 9 membres chargés de la transition, on apprend que ce n'est pas sur le site du palais présidentiel dans le centre de Port-au-Prince qu'aura lieu cette installation. Non, mais dans des locaux en banlieue. On en parle avec vous, Abla Jounaïdi. Bonjour Abla.
Bonjour.
Et la raison de ce changement, c'est que le palais présidentiel qui se trouve dans le quartier du Champ de Mars à Port-au-Prince est en fait toujours en proie aux attaques de gangs.
Oui, finalement, difficile d'imaginer donc une installation au Champ de Mars, la plus grande place publique d'Haïti où se trouve le palais présidentiel. Il y a encore un mois, l'un des membres du conseil l'envisageait, mais une ultime visite de la zone ce lundi a enterré cette perspective, du moins pour l'instant. Le quartier, vous l'avez dit, est régulièrement pris d'assaut par des hommes armés. Le conseil s'installerait donc à la Villa d'accueil, une résidence présidentielle située à Bourdon, dans le sud de la capitale. C'est là aussi que siège la primature. Une cérémonie doit avoir lieu demain matin.
Et pendant ce temps, Abla, un avion militaire américain s'est posé en plein jour sur le tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince. C'est une première depuis le 4 mars dernier.
Une première depuis qu'une coalition de gangs avait tenté de prendre le contrôle du bâtiment et forcer l'interruption des vols internationaux. L'appareil de l'armée de l'air américaine transportait du personnel de sécurité pour l'ambassade des États-Unis, selon un communiqué du Pentagone. Interrogé par le journal Le Nouvelliste, des sources proches du gouvernement estiment que cette visite s'inscrit aussi dans le contexte des efforts pour tester le périmètre de sécurité autour de l'aéroport. L'avion transportait-il les armes promises récemment par Joe Biden à la police nationale haïtienne ? Le communiqué n'en fait pas mention. Ce sont les unités spécialisées de la PNH qui sont en première ligne pour la sécurisation des infrastructures et ce qui reste des institutions en Haïti. Ils en payent chèrement le prix. Une vingtaine de policiers ont été tués ou blessés depuis le début des attaques coordonnées des gangs le 29 février dernier.
Les explications d'Abla Jounaïdi du service international de RFI.
Direction les États-Unis à présent. Les États-Unis qui renouvellent leur aide à leurs différents alliés dans le monde.
Une enveloppe d'une valeur de 95 milliards de dollars destinée à Israël ou encore à Taïwan, mais le gros bloc de cette aide est bien pour l'Ukraine, puisqu'il s'agit là d'un montant de 61 milliards de dollars. Joe Biden, le président américain, devrait d'ailleurs signer dans les prochaines heures ce plan. Alors 61 milliards de dollars, ça peut évidemment paraître astronomique. Concrètement, Nathanaël Vitran, qu'est-ce que cette somme, à quoi va servir et surtout, est-ce qu'elle va être directement versée à Kiev ?
Non, évidemment, un tiers va servir à financer les opérations de l'armée américaine sur le sol européen, y compris les services de renseignement qui fournissent à l'armée ukrainienne des informations précieuses. 13 milliards serviront à réapprovisionner les stocks de munitions de l'armée américaine, ce qui va ouvrir la voie à d'autres transferts à l'armée ukrainienne dans le futur. 14 milliards permettront à Kiev cette fois de s'équiper auprès des fournisseurs de l'armée américaine, particulièrement en système de défense anti-aérien. Ça, c'est très important. À l'heure actuelle, la Russie domine toujours la bataille du ciel. Les Ukrainiens ne cessent de répéter que cela entrave fortement leur mouvement au sol. Il y a aussi 9 milliards d'assistance non militaire qui permettront au gouvernement ukrainien de fonctionner, de payer les salaires, les retraites par exemple. Les Républicains ont exigé et obtenu que cette somme soit versée sous forme de prêts et non pas de dons. Même s'il est avait précisé que le prochain président américain en 2026 sera libre d'effacer cette dette. Plus anecdotique mais inquiétant quand même, 150 millions de dollars doivent servir à Kiev à se préparer à l'éventualité d'une attaque nucléaire sur son sol.
Un décryptage signé Nathanaël Vitron. Alors si les États-Unis continuent d'aider l'Ukraine aux côtés de leurs alliés, les États-Unis comptent aussi mettre la pression sur la Chine. C'est d'ailleurs pour cela que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken y est depuis ce matin. Deuxième visite du chef de la diplomatie américaine en moins d'un an dans le pays. Objectif pour lui que Pékin revoie notamment sa copie sur sa relation avec la Russie. Mais la Chine n'a pas l'intention de se laisser intimider. C'est en tout cas ce qu'on comprend quand on lit les dernières déclarations officielles. Florence de Changy.
Dans l'éditorial publié ce matin par Xinhua, l'agence officielle chinoise, juste avant l'arrivée d'Anthony Blinken à Shanghai, le ton est donné. Malgré une récente stabilisation de la relation bilatérale, une grande animosité subsiste et c'est principalement de la faute des États-Unis, indique l'éditorial. Sur l'épineuse question des exportations chinoises, Xinhua estime la peur de Washington irrationnelle et dénonce une rhétorique américaine de plus en plus antagoniste. Deuxième sujet qui fâche, Taïwan et la mer de Chine méridionale. L'éditorial rappelle le principe d'une seule Chine, pierre angulaire des relations sino-américaines, et il dénonce l'ingérence en mer de Chine méridionale des États-Unis qui, je cite, « sème la discorde entre la Chine et ses voisins ». Enfin, sur le sujet de l'Ukraine, où les États-Unis aimeraient voir la Chine jouer un rôle plus clair auprès du président russe et ne pas nourrir son effort de guerre, l'éditorial chinois appelle au contraire Washington à reconnaître son rôle dans l'exacerbation de la crise et à cesser de rejeter sans cesse la faute sur la Chine. Autant dire que les deux pays ne voient rien du même œil. Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Ils étaient des centaines de milliers de manifestants unis et réunis en Argentine hier pour défendre l'université publique et gratuite. C'est tout simplement la plus grosse mobilisation dans le pays depuis l'élection du président Javier Milei en décembre dernier. Tout le pays mobilisé donc en raison des coupes budgétaires drastiques dans les facultés argentines. On y revient dans 10 minutes avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience, qui était dans le cortège de la capitale argentine.
Et en attendant, on s'arrête au Canada où l'on fait déjà face à de violents feux de forêt.
Notamment au nord de Vancouver, sur la côte pacifique, un gigantesque incendie a ravagé plus de 1600 hectares. À l'heure où l'on se parle, ce sont plus de 100 foyers qui sont toujours actifs. Et en ce début de printemps, le Canada s'attend à un été 2024 difficile, après l'été dernier qui était déjà catastrophique. Les pompiers et les autorités qui se préparent à affronter les flammes, mais avec quel dispositif, Léopold de Picot ?
Déjà, les pompiers canadiens ont passé une partie de l'hiver à récupérer de l'été dernier. Pour certains, ce repos n'a pas duré très longtemps. En Alberta, la saison des feux 2024 est lancée depuis fin février, soit 10 jours plus tôt que d'habitude. Depuis, des centaines de soldats en plus sont recrutés et formés. On investit massivement dans des hélicoptères à vision nocturne, dans des drones. La prévention est de mise. Les habitants nettoient autour de chez eux, taillent leurs arbres, ramassent le bois mort et les feuilles, bref, tout ce qui peut brûler. Les Premières Nations canadiennes ne sont pas en reste. Pour la première fois en plus d'un siècle, les peuples autochtones sont autorisés à réaliser des brûlages dirigés. Ça permet de nettoyer la forêt en brûlant les broussailles. Un sursaut collectif avec un objectif, éviter la catastrophe de l'année dernière. Même si dans tous les cas, les chercheurs sont pessimistes, le réchauffement climatique est là. Et si le Canada peut bien tenter d'atténuer les flammes, il ne pourra jamais les empêcher de brûler. Léopold Picot, Calgary, RFI.
Et puis un petit mot d'économie, ça concerne l'avionneur américain Boeing, le constructeur aéronautique qui voit ses comptes dans le rouge pour le premier trimestre 2024 avec une perte de 343 millions de dollars. Alors c'est négatif et c'était attendu après les nombreux déboires de Boeing avec notamment la perte d'une porte en plein vol sur un de ses appareils. Mais c'est moins important que ne le prévoyait le marché.
Merci Stéphane Geneste et à tout à l'heure.
RFI Midi. Cap Haïtien, 100.5 FM.
Direction Haïti donc, Haïti où l'on a enfin une date pour l'installation du Conseil présidentiel de transition. Elle s'affiche en une de la presse que vous avez lue pour nous, Christophe Paget. Ce conseil doit prendre ses fonctions demain, jeudi.
Oui, avec une cérémonie à la villa d'accueil qui a servi entre autres de bureau des premiers ministres ou de la primature, a parlé Alter Presse. Ce ne sera donc pas au Palais National, toujours en ruine depuis le tremblement de terre de 2010, à cause des gangs. Ce qui illustre, écrit le site d'information, l'immensité du défi sécuritaire que doit affronter le Conseil. Pas de Palais National, mais, affirme le Nouvelliste, le symbolisme du pouvoir viendra après, un jour, la légitimité aussi. Pour le moment, l'urgence pour le Conseil est de prendre charge et de poser les premières actions avec les moyens du bord.
Nous restons en Haïti, à Cap-Haïtien, pour écouter une parole rare, un témoignage personnel imbriqué dans l'histoire récente du pays. Ce récit d'un jeune homme rencontré par nos envoyés spéciaux concentre tous les aspects de la crise, tout ce que nous vous racontons par bribes, jour après jour dans cette émission. On y retrouve l'incertitude économique, la violence des gangs, la fuite, la traversée paniquée des faubourgs de Port-au-Prince et la nouvelle vie, marquée par un sentiment d'abandon très profond, par la confiance rompue envers les dirigeants du pays et par l'absence de perspective. Ces mots, ce récit, nous avons choisi de vous le faire écouter dans son intégralité, tel qu'il a été livré à nos reporters.
Je m'appelle Jean-Louis Steven McGregor. J'ai 28 ans, je suis d'origine haïtienne. Ma famille, mes parents étaient, disons, plutôt stricts. En m'élevant, ils m'ont donné beaucoup de principes. Vous savez, ils m'interdisaient à avoir des amis, à avoir des contacts avec les gens de l'extérieur. Alors, comment on pourrait dire, je suis un oiseau qui a grandi presque en cage. J'ai pas l'habitude avec le principe de la rue, disons, je suis plutôt familial. Ouais. Bon, j'étais musicien, je faisais du son avec mes amis, avec mes potes, des musiques totalement engagées, avec des paroles assez fortes pour essayer d'atteindre les leaders. Pas pour avoir une popularité, parce que je suis dans la même merde que Robin. Parce que j'ai pas bouclé mes études universitaires et j'ai pas de métier, j'ai pas d'emploi. Tout ce que je sais faire, c'est dessiner, faire du son, jouer au foot avec mes potes, tout ça. Plus rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire dans ce foutu pays. Rien d'autre. Si vous n'êtes pas né riche, c'est le carnage total dans votre vie. Bon, ma raison d'être à Cap-Haïtien en ce moment, c'est que vu la situation de mon pays, disons que ça dégénère beaucoup à la capitale. J'ai appris beaucoup de choses à Port-au-Prince. J'ai appris ce que c'est d'être menacé, de voir sa vie enlevée, tous ces trucs, de voir des dames violées. Ouais. J'ai vu toutes ces choses à Port-au-Prince. J'ai pris la fuite parce que certaines choses ne me plaisaient pas. J'avais trop vu. Et tout ça m'a rendu un petit peu, comment dirais-je, parano. Parce que j'ai la ressemblance avec les gens qui font ces genres de choses. Certaines personnes en Haïti, dès qu'ils vous voient rasta, tatoué, ils ne vous prennent pour personne. Un moins que rien, vous êtes un chien, un bandit. Ils ne savent pas si vous avez terminé vos études, tout ça. Si vous avez vous-même un objectif, dès que vous venez de Port-au-Prince, surtout les gens d'ici, Cap-Haïtiens, ils vous évitent. Surtout si vous êtes dans cet état-là, dans lequel je me trouve, tatoué, pas d'emploi, disons un chômeur qui vit seul. Elle dit, disons, je suis hors de cette matrice. Ouais, je suis vraiment hors de cette matrice, moi. C'est comme s'il n'y a que moi. Et tout ça, c'est la cause de Port-au-Prince. J'ai perdu des frères, des sœurs, des gens que j'aimais beaucoup. Et l'une des raisons, c'est le barbecue. Je ne sais pas si vous entendez parler de lui. Il est un chef avec son armée qui fait des habits aux gens. Il brûle leur maison, il les tue, il viole les femmes. Il faut que cela se cesse. Un jour, j'espère, j'ai dû déménager à cause du barbecue. Il a presque incendié toute ma maison. Ma famille a pris la fuite, moi aussi j'ai pris la fuite, on a déménagé. Après ça, je suis allé à Delma 40B. De jour en jour, la situation devenait encore pire parce que là où je venais, c'était un quartier assez ganglé, c'était Bel Air. Elle dit, lorsque vous venez d'une zone assez ganglée, dans l'autre zone où vous êtes nouveau, il vous pointe du doigt, il vous regarde drôle, blablabla. Ouais, il se méfie de vous. Et tout ça, c'est, je suis en train de le vivre, mais pas seulement moi, il y en a beaucoup d'autres comme moi qui sont dans la même situation, sans emploi, sans rien à faire, on se lève, on vit chaque jour le même jour. C'est comme ça, il y a depuis des mois, je suis ici depuis avril 2023, je vais avoir un an. Et il n'y a rien qui... Quête spéciale, rien de nouveau, tout, c'est toujours la même chose. Les mêmes nouvelles, jamais une bonne nouvelle, toujours de mauvaises nouvelles. Un pote qui s'est fait assassiner, des dirigeants qui se cachent derrière leur rideau, disséminant leur pouvoir. Ils piétinent le peuple, ils nous crachent dessus. Je ne suis pas participant à ce que, avec la révolution des gangs, parce que ça, ce n'est pas une révolution, ça. Iso, Barbecue, Chrysla, tous ces leaders ne font pas de révolution. Ça, c'est la rage. C'est la rage à l'état pur. Ça, ce n'est pas de la révolution, parce que révolution, c'est pour une évolution. On n'est jamais évolué depuis après 1804. D'après les histoires françaises, c'est le carnage total. Bain de sang, chaque jour, c'est un bain de sang, bain de sang, bain de sang, sans arrêt. Pas au point, c'est devenu un film d'horreur en ce moment. Moi, j'ai quitté Pas au point, sans rien dire, même pas à mes amis. Parce que c'était devenu si fragile, je me sentais en danger de mort. Il fallait que je m'échappe. Il y avait une seule issue pour sauvegarder ma vie, c'était de partir. Bien sûr, c'est la route de la mort, mais il y a des jours, les gangs armés n'attaquent pas les bus qui transportent des gens. Il y a des jours, ils n'attaquent pas. Il y a des jours, vous pouvez passer tranquillement. Je ne sais pas s'ils sont rassasiés aujourd'hui, s'ils ne veulent pas tuer aujourd'hui, ils laissent passer sans tranquillement. Tranquillement, vous pouvez passer. Le jour était béni pour moi, je suis passé tranquillement. Je suis arrivé à Cap-Haïtien. Dès mon arrivée, il y a d'autres personnes qui voulaient venir, ils ne peuvent pas. Ils ont bloqué là-haut. Disons que je suis chanceux. Chanceux parce que ma vie à moi, si j'étais toujours à Port-au-Prince, elle ne serait pas là. Elle sera éteinte.
Le récit d'un déplacé, d'un jeune homme contraint à abandonner sa vie à Port-au-Prince. Il s'est confié il y a quelques jours à nos envoyés spéciaux Vincent Souriot et Boris Vichit. Vous pouvez retrouver ce témoignage sur l'application RFI Pure Radio. Il est 13h18 en temps universel. On va prendre maintenant la Colombie pour parler de cette première. La justice reconnaît désormais les déplacés climatiques. Elle estime que certaines conséquences du réchauffement sont une cause de déplacement forcé. Et la Cour va même plus loin. Elle estime que l'État doit protéger les droits fondamentaux, en l'occurrence ceux d'un couple de personnes âgées, contraints de quitter leur terre à cause des conditions climatiques. Selon les juges, l'État leur doit la même protection qu'aux déplacés ayant fui le conflit armé ces dernières décennies. Écoutez Anna Maria Sanchez de la Fondation Pro Bono. Elle a accompagné les plaignants et raconte leur histoire.
La famille Mendoza est une famille de paysans et leur propriété qui s'appelle le Paradis se trouvait à proximité de la rivière Bojaba. Une rivière qui, en raison de divers phénomènes environnementaux, a dévié de sa trajectoire et il y a eu des crues. À cause de cela, ils ont perdu une grande partie de leur ferme, de leur bétail et des cultures qui étaient sur leur exploitation. La famille Mendoza a dû se déplacer une première fois aux alentours de 2014, mais en fait, cela leur est arrivé plusieurs fois.
Est-ce que cette résolution peut faire jurisprudence ?
Normalement, en Colombie, les décisions de la Cour suprême ne concernent que les personnes impliquées dans le recours. Cependant, l'un des points à souligner, c'est que cet arrêt a étendu l'impact de la sentence à toutes les familles qui ont été touchées par la rivière Bojaba et qui ont été contraintes à se déplacer. Et en plus de ça, la Cour constitutionnelle appelle le Congrès à légiférer sur ce sujet. Disons qu'ils reconnaissent qu'il existe en Colombie un vide juridique au sujet des personnes déplacées en raison de facteurs environnementaux et climatiques.
Des propos recueillis par Ubaldo Bravo de la rédaction de RFI en espagnol. Les déplacés climatiques victimes du réchauffement et donc de manière indirecte de la pollution plastique, les déchets plastiques au cœur de négociations mondiales en ce moment au Canada, Christophe Paget.
Oui, si le capitaine James Kirk visitait la Terre aujourd'hui, il l'appellerait sans doute la planète plastique, déplorait samedi dans Le Devoir l'acteur canadien William Shatner, qui on s'en souvient a joué le capitaine du vaisseau Enterprise dans la série Star Trek, et qui milite depuis plusieurs années contre la pollution plastique. Des délégués de 175 pays sont réunis à Ottawa cette semaine pour participer à la quatrième ronde de négociations sur 5 de l'ONU sur la question, écrit la presse, qui précise « recycler ou réduire la production, deux visions s'affrontent ». L'Association canadienne de l'industrie de la chimie, par exemple, veut mettre l'accent sur la pollution qui est le problème, c'est ce qu'affirme la vice-présidente de sa division des plastiques.
Or, 350 millions de tonnes de plastique seraient jetées chaque année.
C'est ce que pointe le Toronto Star. Le ministre canadien de l'Environnement, Stephen Guilbeault, affirme donc qu'un traité global ambitieux nécessite une limitation de la production des plastiques. L'ONG Greenpeace demande une réduction de la production de 75% d'ici 2040. Et c'est à cause de cette divergence de vue de fond, explique le journal, que les dernières discussions au Kenya s'étaient enlisées. Stephen Guilbeault, écrit Le Devoir, avait donc hésité à prendre position sur la question, craignant de faire échouer les pourparlers d'Ottawa avant qu'ils ne commencent. Mais ses inquiétudes semblent s'être atténuées. Le ministre pense maintenant que les gens ne veulent pas seulement un accord, ils veulent un accord ambitieux.
RFI, la radio del mundo.
Direction l'Argentine à présent. Il n'y avait jamais eu autant de monde dans les rues depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei. Des manifestants réunis par milliers ont marché pour défendre l'université publique et gratuite. L'université asphyxiée par les coupes budgétaires drastiques du président libertarien. Et notre correspondant Théo Conscience était dans le cortège à Buenos Aires.
800 000 personnes selon les organisateurs, 150 000 selon la police. Une chose est sûre, la place de Mai et les avenues qui l'entourent sont pleines à craquer. Impossible de faire un pas en avant ou en arrière. Et au milieu de cette foule compacte, une tête dépasse. C'est celle de Mathias, 4 ans, juché sur les épaules de son père Mariano. C'est pour lui et pour les rêves de tous les enfants que je suis venu, explique cet agent de maintenance. L'université publique et gratuite comme ascenseur social, c'est aussi ce qu'Ivana, étudiante en gestion culturelle, est venue défendre.
Moi, je suis fille d'ouvrier. Sans l'université publique, je n'aurais pas eu l'opportunité de faire des études.
Un peu plus loin, Luciana, enseignante en langue et littérature, s'identifie aux millions d'Argentins pour qui l'éducation publique est un marqueur culturel, une fierté nationale.
Je crois que nous devons valoriser et prendre soin de l'éducation publique et gratuite de qualité que nous avons, car d'autres n'ont pas la chance d'avoir accès à cela.
À côté d'elle, Malena, étudiante, approuve ce que dit sa grande sœur.
Aux États-Unis, au Chili, dans plein d'autres pays, les gens s'endettent pour pouvoir étudier. Et parfois, ils ont du mal à payer ces dettes, même après avoir trouvé du travail.
Au-delà des étudiants et des enseignants qui se sont déplacés en nombre, ce sont toutes les générations, toutes les classes sociales et des gens aux opinions politiques parfois très éloignées qui ont manifesté côte à côte sur la place de Mai hier. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Manifestation aussi au Brésil, Christophe Paget. Les journaux du pays reviennent sur cette marche de milliers d'indigènes hier à Brasilia.
Oui, pour réclamer la démarcation de leurs terres, une question qui oppose le président de gauche, Lula, à un parlement dominé par les conservateurs. Seules 10 zones délimitées ont été officiellement reconnues dans le pays, car la thèse dite du cadre temporel ne reconnaît comme ancestrale que les terres occupées par les indigènes avant 1988. Les indigènes s'y opposent. Folia de Sao Paulo note que le président de la Chambre des députés, qui est allié des partisans du cadre temporel, n'a autorisé aucun slogan faisant référence à cette question parmi ceux que les mouvements indigènes voulaient projeter hier soir au Congrès. Mais notre heure est venue, elle est urgente et ne peut être repoussée, écrivent les organisations indigènes dans une lettre publiée hier et dont Carta Capital publie des extraits. Pendant que l'on discute des délais, que l'on donne plus de temps aux politiciens, nos terres et nos territoires continuent d'être menacés et nos communautés sont en lutte constante pour leur survie. Une réponse, écrit Le Quotidien, à la récente déclaration du président Lula, selon laquelle les gouverneurs ont besoin d'un certain temps pour négocier la démarcation des terres indigènes.
La revue de presse, signée Christophe Paget.
RFI Midi, Anne Contner.
Nous vous en parlons régulièrement dans notre monde de tech sur RFI. L'essor de l'intelligence artificielle inquiète un certain nombre de gouvernements et d'institutions, surtout en période électorale. C'est le cas d'Amnesty International qui publie ce jeudi son rapport annuel. L'ONG voit dans les nouvelles technologies un danger pour les États-Unis à l'approche et durant la présidentielle de novembre, parce que le pays manque de réglementation, de garde-fous, comme l'explique Katia Roux, chargée de plaidoyer en technologie et droits humains chez Amnesty.
Ce qu'on craint, c'est le contexte dans lequel va se dérouler ces élections aux États-Unis. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a un déferlement, par exemple, de haine, d'incitation à la violence, à la discrimination à l'égard de certains groupes, certaines minorités. On a vu, sur l'année écoulée, de fausses vidéos ou audio qui ont l'air très, très réelles et qui permettent, en réalité, de diffuser des idées, d'influencer des avis. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que, en fait, ces contenus-là et ces plateformes-là sont utilisés, instrumentalisés par des dirigeants politiques pour monter aussi les groupes les uns contre les autres, créer des divisions, essayer effectivement d'influencer les opinions et d'influencer donc le résultat d'une élection.
Katia Roux, chargée de plaidoyer en technologie et droits humains chez Amnesty International. L'actualité des Outre-mer, comme chaque jour, avec nos confrères de La Première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
Ce mercredi est une nouvelle journée rouge en Martinique, avec un indice de qualité de l'air très mauvais.
En cause, et entre autres, les particules fines transportées par la brume de sable venue du Sahara. Comme le précise Lucien Lin, il est secrétaire général de l'Ordre des médecins de la Martinique. Il est au micro de Maurice Violeton.
Dans ce phénomène, il y a des éléments qu'on va appeler microparticules fines inférieures à 10 micromètres qui auront des répercussions. Donc en fait, il y a des éléments naturels comme du sable, il y a aussi des champignons, il y a aussi des bactéries qui sont transportées par cette brume de sable. Il y a des éléments qui sont des conséquences de l'activité anthropique, c'est-à-dire le transport, les constructions, le ciment, les maisons, etc. Mais il y a aussi surtout des particules transfrontalières, qu'on dira, qui viennent de très très loin, comme le sable du Sahara, le Sahel, qui sont transportées en haute altitude, très haute altitude par les alizés, et qui arrivent sur nos territoires. Alors, ça n'aurait pas été si dangereux que ça, c'est du sable. Mais quand on a étudié de plus près ces embruns et puis cette brume de sable, on constate qu'il y a des éléments toxiques, comme le cadmium, l'arsenic, le plomb.
Direction maintenant la Guyane, secouée depuis deux semaines par une terrible série de féminicides et aussi d'infanticides d'ailleurs, des actes commis par les conjoints ou compagnons des victimes. Pour Amandine Marchand, membre de l'association L'Arbre Fromager, une prise de conscience urgente s'impose désormais, elle l'a dit au micro d'Alexandra Silbert.
Il nous faut une fiche de route, il faut qu'on travaille dans une stratégie pour que chacun puisse se positionner à son niveau, prendre ses responsabilités, faire des moyens qui sont déployés, quelque chose d'efficace. On a encore des outils qui nous manquent sur notre territoire, on n'a toujours pas d'observatoire, on a quelques chiffres, ça monte, oui, mais quoi précisément? Vers quoi on doit axer nos forces? Où est-ce qu'il y a encore des trous dans le maillage? C'est quoi nos manques? Voilà, il faut identifier, il faut être honnête avec les moyens qu'on a, avec le territoire qu'on a, et il faut travailler en ce sens. Je voudrais quand même rajouter un petit peu, partager avec vous l'état d'esprit qu'on vit, nous, en ce moment, à l'association, suite à ces drames, à ces féminicides et ces infanticides. Depuis lundi, on accueille des urgences et les femmes ont peur. Malgré ça, elles passent la porte, elles ont décidé que ça devait s'arrêter. On a reçu quelqu'un qui vivait dans le même quartier que l'un des féminicides et qui s'est dit « je crois que la prochaine, ça peut être moi, je crois que c'est réel ». Et donc, elle a eu ce courage-là de passer la porte. Et donc, on invite vraiment toutes les femmes, les voisins, les pères, les mères qui sont inquiets, prenez contact, appelez, renseignez-vous. Il faut qu'on fasse un effort de communication, il faut plus de visibilité sur ce qui existe.
La Guyane, où le taux de violence conjugale serait l'un des plus élevés de France. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. De la musique avant de se quitter, voici Clinton Fearon.
Come my little closer, I want you to hear this song. Come along, lend me your ears. Come my little closer, I want you to sing this song. Come along, the message is clear. In this crazy mixed up world, money is the center. Of it all. In this crazy mixed up world, money is the same.
care for you, no care for me, no care for nothing at all but themselves and their money.
Mixed Up World de Clinton Fearon pour terminer cette édition d'RFI Midi réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une très bonne journée sur notre antenne. Avec tout de suite de vive voix, Pascal Paradou.